France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, également sur le canal 27 de la TNT, la campagne présidentielle, une promenade de santé, les vacances, pourquoi faire, les jours fériés, pas le temps de ne rien faire, voilà pourquoi ils se retrouvent autour de la table des informés de France Info, parce qu'ils sont au taquet, voilà, de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Alain Auffray de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Également l'écrivain André Bercoff, bonsoir.
Bonsoir.
Judith Vintraub du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Et également François Calfon, bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller régional d'Île-de-France socialiste et soutien de Benoît Hamon. Et ce soir, quatre débats lançant des confettis d'actualité. USA-Russie, la petite guerre froide. Pierre Gattaz ne votera pas Benoît Hamon, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen. Indécis, faiseur de roi. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Un an après, il reste des cendres. Alors cette nuit, le camp de Grande-Synthe dans le Nord a été la proie des flammes ravageant la plupart des abris prévus pour accueillir des réfugiés rêvant d'Angleterre. Une bagarre entre Kurdes et Afghans a dégénéré, obligeant 700 migrants à trouver refuge dans les gymnases de la ville. Présenté comme exemplaire par son maire, ce camp de Grande-Synthe et ses 300 pavillons en bois a vite été saturé, en fait, une semaine après son ouverture, en mars 2016, puis presque hors de contrôle après le démantèlement du campement dit de la jungle de Calais à l'automne dernier. Et désormais, il faut voir encore plus loin. Damien Carême, maire de Grande-Synthe.
Ce qui s'est mis en place en France, c'est des centres d'accueil d'orientation dont la solution est beaucoup plus pérenne et plus acceptable. On vit dans des conditions normales. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est des élus locaux qui acceptent d'ouvrir des centres d'accueil d'orientation. Et je leur conseille d'appeler des élus locaux qui ont ouvert des centres d'accueil pour qu'ils témoignent de ce que ça génère auprès des populations et dans les populations, ce phénomène de solidarité qui se met en œuvre. Et comme ça, si on a plus de centres d'accueil d'orientation qui se créent en France, vous verrez qu'on parlera plus de ces problèmes comme on en parle aujourd'hui.
Voilà, Damien Carême, maire de Grande-Synthe. Judith Vintraub, est-ce que pour vous, en dehors, bien sûr, bon, on va pas discuter de ce qui a provoqué, bien sûr, cet incendie, mais est-ce que là, c'est la suite, finalement, du démantèlement du campement dit la jungle de Calais à l'automne dernier?
Oui, ça paraît assez lié quand même, ne serait-ce que chronologiquement. Et puis surtout, c'est la conséquence d'une politique d'arrivée de migrants non contrôlés. Avec des moyens insuffisants mis pour essayer de maîtriser le phénomène. Mmh. Le problème n'est pas résolu à la source, il n'y a aucune raison qu'il soit résolu en aval.
Alain Auffray, pour vous?
Non, le problème il est un peu en train d'être résolu, justement. Le démantèlement de la jungle de Calais, il faut quand même se souvenir ce que disait la droite du démantèlement de la jungle de Calais il y a 6 mois. Nicolas Sarkozy était à Calais, j'étais avec lui, donc je me souviens très bien. Il disait, de toute façon, il n'y a rien de faisable tant que je ne suis pas au pouvoir. Démanteler cette jungle, ce n'est pas une solution tant qu'on n'est pas sorti de Schengen, etc. Laurent Wauquiez faisait circuler des pétitions pour que les maires refusent. Pelletier parlait de guerre civile, etc. La vérité, c'est que l'accueil de l'essentiel de ces migrants qui étaient dans la jungle ont été effectivement accueillis dans les centres d'accueil et d'orientation. Que ça se passe pas si mal que ça, jusqu'à preuve du contraire. C'est qu'il y a une partie qui est allée sur Grande-Synthe et que du coup, Grande-Synthe était en surcapacité, d'où les problèmes qu'ils ont eus.
François Calfon.
Allez-y.
Bah,
je partage pas ce tableau selon lequel il y aurait une sorte d'afflux massif non contrôlé. Quand on regarde, comparaison n'est pas raison, mais quand on regarde la façon dont nos pays voisins, l'Allemagne pour ne pas la nommer, mais beaucoup d'autres, ont accueilli beaucoup plus de réfugiés que nous, je pense que c'est une vision fausse, celle que vous développez. Que la deuxième chose, là je partage
c'est-à-dire
le commentaire.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème ?
J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Transformer ça en afflux massif et non maîtrisé, c'est pas vrai. Et que par ailleurs, les politiques publiques d'accueil des réfugiés fonctionnent plutôt bien, modulo, parce que je suis pas non plus, hors du temps et de l'espace, modulo quand même le problème structurel des grandes métropoles. Je pense à Paris, où il y a une forme d'appel d'air, parce que tout simplement, il y a toutes les fonctionnalités d'une métropole.
Mais on peut
dire qu'il y a quand même une forme de régulation. D'ailleurs, ça fait plus la une de l'actualité. Là, on peut parler d'un accident, d'un incendie préjudiciable, mais accidentel. Mais on peut pas dire
accidentel, on n'en sait rien.
Je crois que vraiment, il serait quand même assez étonnant et presque cocasse, hélas, si c'était pas aussi grave, d'arrêter le tableau maintenant. C'est un tableau évolutif. il y a 50 millions de gens, et je serai somalien, éthiopien et autres, que j'aurais envie d'une chose, c'est de venir en Europe. Et c'est, voilà, il faut le dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a eu aucune politique globale européenne, il n'y a eu aucune vision, il y a eu des choses au coup par coup, il y a eu un déni de réalité total, y compris chez Angela Merkel, qui est en train de commencer à le payer très cher.
Y compris vis-à-vis de la Turquie,
voilà,
si je peux rajouter.
Vis-à-vis de la Turquie, parce que Erdogan commence à dire, si c'est comme ça, je lâche tout, et vous allez voir ce qui va arriver.
On est entré
donc,
dans un chantage sans issue.
Il y a une espèce d'aveuglement systématique, comme si, allez, ça y est, on a tout réglé, tout va bien.
Et
tout
le temps,
va bien
et
jusqu'à
le,
la prochaine.
Et le temps se réchauffe.
Alors, pardon, mais attends, vous avez dit une chose et son contraire. C'est-à-dire que sur la source et le diagnostic, on peut le partager. C'est-à-dire qu'il y a une forme de pression migratoire liée énorme. Aussi, parce qu'il y a, finalement des réfugiés du changement climatique, mais pas que, des politiques publiques qui sont menées en Afrique.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'il faut traiter les choses. Mais les temporalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que on a parlé en aval de la question posée, c'est-à-dire de la gestion du dossier des réfugiés autantés. Ça n'empêche que les solutions, non pas les solutions, mais le diagnostic que vous posez quant finalement à la source, sont un diagnostic qui est important. Ensuite, on pourrait parler, mais c'est un peu technique, du fonctionnement de Frontex, où finalement, il n'y a pas un commandement intégré de Frontex.
Ben oui,
donc, chacun répond au commandement national.
C'est grave qu'il n'y ait pas un commandement intégré.
D'accord, mais
on ne
peut pas vous dire que c'est formidable, et pas assez de moyens non plus. Mais on peut dire que compte tenu de tout cela, en France...
Ça pourrait être pire, oui. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas dit grand-chose.
Jusqu'ici, tout va bien. Et surtout que des choses ont été faites qui se sont, encore je le redis, pas si mal passées que ça.
Mais
le sujet, c'est pas... Effectivement, il y a un problème migratoire sur la planète, etc. Mais il y avait un sujet à Calais et à côté à Grande-Synthe. La question, c'était, on fait quoi? On a fait des choses en septembre.
Justement,
dernier.
on va en parler dans un instant de ces choses-là, et notamment des CAO, qui sont 450 en France. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Une explosion a eu lieu au départ du bus des footballeurs du Borussia Dortmund. Sur le compte Twitter, le club de foot allemand parle d'un blessé. Pas de précision sur les causes de cette explosion. Dortmund reçoit ce soir Monaco en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'ouverture d'une information judiciaire pour viol en réunion pour trois rugbymen du FCG. Les trois joueurs grenoblois vont être présentés ce soir à un juge d'instruction. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au viol d'une bordelaise après un match début mars. Cinq joueurs grenoblois étaient à nouveau auditionnés toute cette journée à Bordeaux. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se placent en tête des intentions de vote à égalité avec 24% des voix des personnes certaines d'aller voter. Les résultats de la deuxième enquête d'intention de vote de l'Institut Ipsos Sopra Steria pour France Info et France Télévisions. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa progression dans ses intentions de vote. Il devient le troisième homme et se classe très légèrement devant François Fillon, 18,5% contre 18%. Le débat de l'entre-deux-tours sera diffusé le mercredi 3 mai. TF1 et France 2 l'annonce ce soir, mais BFM TV fait savoir qu'elle souhaite toujours se joindre à elle. Il n'y aura pas de reconstruction du camp de migrants de Grande-Synthe, la déclaration dans le Nord du ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl. Il faudra, dit-il, que les élus et les associations trouvent les bonnes solutions pour les 1400 réfugiés. Les suites de l'incendie la nuit dernière de ce camp à la suite d'affrontements, les flammes ont ravagé la majorité des chalets.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, justement, nous parlons de cet incendie dans le camp de Grande-Synthe. On vient de l'entendre, Mathias Fekl, le ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il n'y aura pas donc de reconstruction de campement sur les baraquements brûlés. Mais André Bercoff, le maire de Grande-Synthe, qu'on a entendu tout à l'heure, Damien Carême, a dénoncé le fait qu'il n'y ait pas assez de CAO, donc de centres d'accueil et d'orientation, ce qui aurait permis, selon lui, de désengorger cette surpopulation. Est-ce que c'est là aussi la chose? Il y en a 450 en France, 12 000 places, c'est insuffisant?
Bah écoutez, c'est évidemment insuffisant par rapport à ce qui se passe. Le problème, encore une fois, moi je suis très très frappé par deux choses. C'est que d'un côté, on fait des choses et on les cache, et on les fait, on les cache. C'est-à-dire qu'il y a un voile de bonne conscience et de politiquement correct qui ne consiste pas à nommer les mots MOTS sur les mots MAUX. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que combien de gens, mais moi, vraiment, je ne demande qu'à savoir, combien de gens, la France aujourd'hui, dans l'état où elle est, peut accueillir.
Alors, je vous le dis exactement.
Qu'on le dise.
Je vous le dis, voilà. Il y a 10 000 personnes. Voilà, 10 000 personnes qui seraient accueillies. Normalement, en fin 2017, c'est 10 000 personnes. Et pour l'instant, la France en a accueilli
alors,
que 2200.
Moi, je voudrais vous poser une 2200. Question. François Hollande, qui est excellent avec l'Arabie Saoudite. Vraiment, il entretient, comme Sarkozy entretenait d'excellents liens avec le Qatar. Savez-vous qu'il y a, on peut accueillir, à cause du Hajj, en Arabie Saoudite, 3 millions de personnes. Ils ont des tentes climatisées, remarquables et tout. Vous avez remarqué que l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats n'accueillent personne. Mais personne. Alors là, on ne dit rien. Est-ce que vous avez entendu un mot, une manifestation sur les États-Unis, sur les Qatar, en disant
on
va les
accueillir. On n'a pas beaucoup de migrants qui peuvent y aller non plus.
Non, mais c'est
en même temps, si vous, enfin, faut connaître un peu ces pays, mais c'est un peu exotique comme discussion. Oui. Des nationaux au Qatar, il y en a à peu près 10% par rapport à la population réelle.
Oui.
Mais passons cela, puisque votre argument n'avait bien sûr pas vocation à être réaliste, mais plutôt à entretenir une sorte de climat de polémique. Quand on rappelle les chiffres qui ont été rappelés,
Amnesty International, qui a dit pourquoi
on voit bien, on a des éléments chiffrés qui nous disent à quel point, si on devait avoir une clé de répartition européenne des 27 sur l'accueil des réfugiés qui viennent sans qu'on leur demande de venir, ça paraît tout à fait évident.
Bien sûr,
nous sommes plutôt en deçà de la main.
Mais alors pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi à gauche comme à droite, ils ne font pas les clés de répartition?
Julie Vintraube.
Alors, on est en deçà de la main, c'est vrai, en termes de proportion pure. On est au-dessus de la main et largement en termes de chômage, par exemple.
Ah, c'est vrai. Mais enfin,
les chiffres viennent de tomber.
Bon, ça n'a rien à voir.
Ça n'a pas rien à voir. Mais je me souviens, enfant, quand il y avait, par exemple, les Boat People... on a une responsabilité à l'époque, il n'y avait pas la droite et la gauche avec une droite qui est maintenant complètement rétrécie sur elle-même, mais c'est vrai qu'il fuyait le communisme, donc à l'époque on les accueillait à bras ouverts, eh bien on savait ce que c'était que accueillir des gens qui fuient la guerre sans mégoter, sans tordre la bouche.
Est-ce qu'il y avait autant de chômage? Est-ce que l'éducation nationale était dans le même état?
Alors après, est-ce
qu'il se posait avec les Boat People les mêmes problèmes d'intégration qui se posent aujourd'hui? Je suis désolée, ça compte aussi.
Voilà, c'est votre sujet.
Les trois.
Vous l'avez nommé.
Ça ne me dérange pas du tout. Mais les trois. Il faut prendre les trois. L'état de la France, l'état du chômage en France, l'état de l'éducation nationale et effectivement la différence des religions. Je suis désolée, ce serait aussi problématique si un afflux massif de catholiques ou de juifs, encore pire, partait vers des pays
Vous déconseillez de catégoriser.
Vous savez, il y a de toutes les religions, il y a même des gens qui ne croient pas, qui viennent aussi parmi ces réfugiés.
Oui.
Et puis tous ne viennent pas parce qu'il y a la guerre chez eux, pardon de vous le dire ça.
Mais il y a majorité,
Ce que les événements de Grande Synthe mettent paradoxalement en lumière, c'est que d'une certaine manière, peut-être que André Berkoff pourrait le reconnaître, c'est que le problème de Calais a finalement été réglé, contrairement à ce qui avait été dit, encore une fois, il y a 6 mois, c'était impossible, ça allait être une abomination, des appels des maires de droite à empêcher des installations de CAE dans leur commune. Très franchement, alors Judith évoque des problèmes ici ou là, sans doute, mais enfin, globalement, si c'était une catastrophe, je peux vous dire qu'en période électorale, ça se saurait.
Allez, justement, période électorale, on va en parler maintenant, puisque c'est la nouvelle tendance de ce mois d'avril, après le sans gluten, après les vacances en roulotte, voici l'indécision. Faites le test en soirée, dites que vous ne savez pas pour qui vous allez voter, et là, tout le monde va se précipiter. Oh, regardez, c'est un indécis. Oh là, c'est à ça que ça ressemble. Oh, je pensais que c'était plus beau. Oh, vous croyez qu'il nous comprend? Les indécis, voilà la dernière pièce du puzzle présidentiel imprévisible. Selon une étude du CBPOF, sur les 47 millions d'électeurs, il serait 40% à ne pas savoir encore pour qui voter, du jamais vu dans un scrutin qui généralement enregistre les meilleurs taux de participation. Alors, l'Institut développe 4 raisons à cette incertitude. Bon, le nombre de candidats, 11. Les affaires, Fillon, qui déboussolerait les électeurs de droite. Les divisions à gauche et l'émergence d'un candidat, Emmanuel Macron, difficilement identifiable. De quoi finalement être chamboulé, ce dont Édouard Le Serre, directeur statistique opinion chez Kantar TNS.
C'est vrai que les Français ont d'abord des doutes sur l'efficacité de la politique. Ils sont un peu en distance, en méfiance par rapport à cette politique. Et c'est vrai aussi que l'offre électorale est un peu moins lisible pour eux, ce qui leur pose des questions et se disent au final, est-ce que je vais choisir un candidat ou est-ce que je vais plutôt choisir de m'abstenir?
Voilà, Édouard Le Serre, donc directeur statistique opinion Kantar TNS. Alors juste avant de parler des indécis, nous avons présenté à partir de 18h sur France Info ce sondage réalisé avec Ipsos et France Télévisions qui confirme donc une percée de Jean-Luc Mélenchon qui serait jusqu'à présent le troisième homme avec 18,5% contre 18% à François Fillon. Marine Le Pen et Emmanuel Macron occupent toujours les premières places avec 24% et surtout Benoît Hamon à qui le sondage attribue 8% des intentions de vote. Forcément, François Calfon, je me tourne vers vous, 8%, Benoît Hamon.
Je vais répondre. Il y a les indécis, et c'est la mode, c'était à la une du Parisien ce matin. Ouais. Il y a les indicibles, c'est-à-dire des gens qui répondent pas forcément ce qu'ils vont faire, et on aura beaucoup de surprises. Et puis, il y a ceux qui vont voter avec une forme de responsabilité. C'est quand même une élection présidentielle.
Mmh. 8% pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même
je suis
que...
en train de vous dire une chose.
Justement.
Je vais au bout. Vous allez-y. 8%, la photo finish. À 15 jours, elle n'est pas finish. Mmh. Elle n'est même pas prédictive.
Il y aurait un vote caché pour Hamon?
Je pense qu'il y a un vote, pas simplement pour Hamon, je pense qu'il y a un vote caché. Je pense que les Français aiment, et tous, jouer à se faire peur. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai discuté avec des gens qui sont plutôt du milieu de l'entreprise et qui se réjouissaient de la montée de Mélenchon. Donc, question, je me suis fait journaliste à mon tour, ou homme d'opinion, c'est les fonctions que j'ai eues longtemps au Parti Socialiste. Eh bien, une forme de jubilation à l'atomisation du jeu politique et donc aux figures.
Vous croyez vraiment que les Français réfléchissent comme ça, ce qu'elles font?
Il y a un vote stratège qui monte de plus en plus. Et ce vote stratège, c'est comment je vais, pardon de l'expression, emmerder le système. Donc, ils se saisissent d'un certain nombre de gens, ils feuilletonisent, et croyez-moi, nous sommes à 15 jours du vote, il y a un rebond, non pas qui est possible, mais qui va se produire, et vous verrez que des candidats qui ne sont pas de saison, comme par hasard issus des partis plus traditionnels, Parti Socialiste, Les Républicains, vont remonter.
Je suis content.
Donc, c'est la réponse à votre question.
Bien sûr, je suis content pour ça qu'Alphon est plein d'espoir, il a raison, l'espoir fait vivre. Le problème, François Calfon, c'est qu'il faut reconnaître trois choses. D'abord, François Hollande, imitant cela admirablement son mentor Mitterrand. Mitterrand avait tué le PC. François Hollande a tué le PS.
C'est pas tout à fait la même chose. La scie et la branche, là.
Il a scié la branche, mais sur laquelle il n'est plus assis.
J'ai bien aimé la comparaison, et c'est talentueux.
Sur laquelle il n'est plus assis. Deuxièmement, il faut quand même, on parle un tout petit peu des sondages. Et là, je vais vous dire... Il y a quand même un côté manipulateur, on veut pas le dire, on dit les sondages, dès qu'on touche aux sondages, comment vous osez toucher aux sondages? Mais je vais vous dire, quand même, un truc terrible. On dit aujourd'hui, Mélenchon, il est à 19, Hamon est à 18, à 8,
pardon. À 8.
Bon, ça veut dire que si on veut solliciter ce qu'on appelle imbécilement le vote utile, les gens vont dire, moi, Hamon, c'est cramé, il peut pas faire quoi que ce soit, donc je vais aller voter, moi, de gauche pure et dure, je vais aller voter Mélenchon. Il y a, qu'on le veuille ou pas, une manipulation. J'aimerais, franchement, qu'on cesse avec ça.
Dans quel but, André Bercoff?
Dans quel but? Très simple. C'est que, franchement, si on est majeur et vacciné, si on a plus de 4 ans et demi, on peut peut-être se décider en fonction des programmes, en fonction des déclarations des candidats, en fonction de ce qu'ils disent, et pas en fonction des chiffres respectifs.
C'est ce qui va se passer.
Justement,
on va en parler de ces programmes dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Avec cette explosion qui a eu lieu au départ du bus des footballeurs du Borussia Dortmund ce soir, la police allemande parle d'un passager blessé il y a seulement quelques minutes par l'explosion de 3 charges d'explosifs. Les vitrines de l'autocar ont volé en éclats. Dortmund reçoit ce soir Monaco en quart de finale aller de la Ligue des Champions et la décision sur un éventuel report de ce match sera prise à 20h30. L'ouverture d'une information judiciaire pour viol en réunion à l'encontre de 3 rugbymen du FCG. Les 3 joueurs grenoblois de top 14 vont être présentés à un juge d'instruction. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au viol d'une bordelaise après un match début mars. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa progression dans les intentions de vote. Il devient le 3e homme et se classe très légèrement devant François Fillon, 18,5% contre 18%. Les résultats de la 2e enquête d'intention de vote de l'Institut Ipsos, Sopra, Steria pour France Info et France Télévisions. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se placent en tête de ses intentions de vote pour le premier tour, à égalité avec 24% des personnes certaines d'aller voter. Yannick Jadot, lui, sur France Info, se dit sidéré par les critiques de Pierre Gattaz sur le programme économique de Benoît Hamon. Pour l'écologiste, le patron du MEDEF entretient la rente d'une partie de l'économie française depuis tant d'années. La désindustrialisation de notre pays, c'est aussi Gattaz, dit-il. Les 6 500 000 chômeurs, c'est aussi Gattaz. Et puis les ministres russes, iraniens et syriens des affaires étrangères se rencontreront d'ici la fin de la semaine à Moscou. Une annonce à quelques heures de l'arrivée aujourd'hui en Russie du nouveau secrétaire d'État américain. Rex Tillerson va rappeler la position ferme du président Trump contre le régime syrien. Damas toujours défendu par la Syrie.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ce sondage, Ipsos, France Info et France Télévisions, avec des bonnes intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, Emmanuel Macron toujours en tête, et donc un match François Fillon-Mélenchon pour la quatrième place. Benoît Hamon serait pour l'instant crédité de 8%. Judith Vintraube.
On parlait surtout, vous parliez de l'indécision.
Oui.
Indécision inédite à ce taux-là, aussi proche de l'échéance. Mais finalement, est-ce que c'est tellement étonnant? Regardez quel est le discours des candidats qui se présentent. Vous avez le théoricien du dégagisme, Jean-Luc Mélenchon, qui est un peu devant, un peu derrière Fillon, mais grosso modo à la troisième place, peut-être à la deuxième, on ne sait pas. Marine Le Pen, qui a fait profession de dire qu'avec elle, c'était la nouveauté absolue, on allait jeter tous les représentants de l'ancien système. François Fillon lui-même, qui vous dit, dans ce qui a fait le moteur de ma candidature, il y a le remords d'avoir passé tellement de temps au pouvoir sans trouver des solutions aux problèmes des Français. Donc c'est aussi une certaine forme, une incarnation de rejet. Pardon.
Et en plus, c'est un rebelle.
Mais c'est un rebelle pour ça, de rejet du système. Donc, en gros, tous les...
Et Macron qui dit ça.
Et Macron qui, lui aussi, est un vote protestataire à visage souriant, contrairement à Marine Le Pen. Donc, en gros, non seulement vous avez énormément d'anécies, mais parmi les candidats déclarés, tous, peu ou prou, vous disent on s'est trompé ces 35, ces 40 dernières années.
Alors justement, Alain Onfray tout à l'heure, il y a d'autres raisons de citer par le Cevipof, donc je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de candidats à faire Fillon.
Ça c'est idiot, le nombre de candidats, parce qu'on a déjà eu.
Voilà, exactement, division à gauche, Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, il n'y a pas une chose aussi simple, c'est à un moment, peut-être le ras-le-bol d'une classe politique, tout simplement?
Oui, c'est possible, c'est possible. Je pense que de toute façon, on ne parlerait pas tant que ça des indécis s'il n'y avait pas cette situation inouïe où on est incapable de dire à 12 jours du premier tour, quels seront les deux qui seront au deuxième.
Le chiffre est quand même très important. 40%, 40%, c'est énorme.
Oui, oui, mais si on était, était en 2007 ou en 2012 et si on avait 30 à 40% d'indécis, à la limite, on n'en parlerait pas tant parce qu'il y avait quand même une certaine...
Parce qu'on ne les aurait pas.
Mais oui, mais c'est vrai.
Non, parce qu'il était clair. Il était clair de...
Et oui.
Non,
mais... François Calfon.
Oui, juste pour... Parce que Judith Vintraube dit quelque chose de très intéressant. Si on va plus profondément, les deux primaires ont sorti ceux qui étaient les favoris. Deux primaires. Bon. Et donc, à un moment donné, dans le côté nos futurs, parce que c'est quand même très punk tout ça, tout à l'heure on a parlé de la disruption.
Présidentiel punk, oui.
Voilà, présidentiel punk. Mais moi, je prétends depuis tout à l'heure que... il va y avoir bien un moment, cristallisation extrêmement tard, sur lequel il y aura à la fois cette volonté finalement de tourner la page, et à la fois l'idée qu'on va présider la cinquième puissance du monde, qui dispose du feu nucléaire, qui a 1 000 milliards de dettes, qui a finalement...
6 millions de chômeurs, etc.
Et donc, à un moment donné, l'espèce de festival punk auquel on assiste va s'arrêter. Et je crois que la responsabilité des uns et des autres, vous l'avez dit André Bercoff tout à l'heure, c'est de s'arrêter une seconde, juste pour ce petit pays de plus de 60 millions d'habitants, sur ce que les uns et les autres comptent en faire du pays. Et justement, pas de savoir si, finalement, ils ont tel style dans un meeting, s'ils ont tel hologramme à tel endroit.
Juste une question, André Bercoff. Est-ce que aussi, c'est tout à l'heure, malgré ce que disait François Calfon, est-ce qu'il y a aussi, finalement, un peu déboussolé, parce qu'on a vu avec des gens comme Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, une sorte de fin des partis politiques traditionnels? Est-ce que, finalement, il y a ce vieux repère aussi qu'ils ont?
Mais en quoi sont-ils la fin? Jean-Luc Mélenchon, 30 ans de socialisme, 400 ans de sénateur, etc. Attendez. Il faut quand même dire les choses. Non, pardon.
Allez-y.
Monsieur Emmanuel Macron qui se présente comme un vierge en politique. Hein. Il sait tout juste, il ne s'est pas recousu l'hymen. Hein. C'est un transgenre. Il n'a jamais été à la Banque Rothschild. Il n'a jamais été chez Hollande. Il n'a jamais fait le programme économique de Hollande. Il n'a jamais été ministre de l'économie. Moi, Hollande, mais je ne connais pas. Qui c'est Hollande? Vous me parlez de qui, là? Non, attendez, il faut arrêter un tout petit peu le délire et la farce. Et puis, deuxièmement, vous avez montré, moi je reviens au sondage, c'est important, parce qu'on parle tout le temps du matin au soir. Dites-moi ce que veut dire ces sondages et ces chiffres avec 40% d'indécis. C'est du bullshit. C'est du bullshit, pardon de vous le dire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les seuls sondages intéressants, c'est le big data. Ce sont ceux qui ne posent pas de questions. Ce sont ceux qui vont dans les réseaux sociaux et qui vont savoir ce qui se passe.
Alors attention, attention, ça c'est sur l'influence numérique, ça n'a rien à voir avec ce que pensent véritablement les gens.
C'est intéressant.
Non, mais l'influence numérique, ça n'a rien à voir. Forcément, François Fillon en a beaucoup parlé au mois de janvier, février, mars avec les affaires. Forcément, il était en tête parce qu'on parlait énormément de François Fillon, pas pour des raisons politiques.
Pardon, ils examinent aussi quand on dit le pique-pain de François Fillon. C'est pas quand on comptabilise François Fillon, donc François Fillon est en tête.
Non, mais on en parlait. On en parlait davantage à l'époque, mais pas de politique. Vous voyez, donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention à
ça
sur les sondages.
En tout cas, attention à ça. Et juste pour finir, je veux dire, il faut arrêter de dire crise de la représentation, crise des partis, oui. Les primaires ont été un métastase cancérigène de la vie politique, on le voit. Et aujourd'hui, on a le résultat.
On continue à parler de la présidentielle dans un instant, et notamment de ces ordonnances, et même de Pierre Gattaz dans un instant. Tous ces gens-là font la campagne ce soir en France, la campagne présidentielle. Les Informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
Nouveau message, Bouygues Télécom.
Je t'écoute.
En ce moment, Bbox Miami est à 19,99€ par mois pendant un an.
19,99€
avec 170 chaînes TV, plus le replay, plus 7000 films en VOD.
Attends, tu vas un peu vite là, j'ai pas le temps de...
Normal, ça dure au débit.
En ce moment chez Bouygues Télécom, Bbox Miami est à 19,99€ par mois pendant un an, puis 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité.
Vous êtes plutôt athlète ou esthète? Plutôt rock ou plutôt folk? La bête ou la belle? Profitez dès maintenant d'une offre qui vous ressemble. La BMW Série 1 suréquipée à choisir en version sportive ou raffinée. Au même prix exceptionnel de 345€ par mois, sans aucun apport. Exemple de loyer pour une BMW 1 saisie, 3 portes M-Sport ou Urban Chic en location longue durée sur 36 mois et pour 40 000 km intégrant l'entretien et l'extension de garantie. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 30 juin 2017. Détails sur bmw.fr.
France Info Météo avec Gautier. Fabricant français de mobilier contemporain à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Bien ensoleillé demain avec un bémol. Près de la Manche, ce sera plus mitigé. Des plaques de nuages bas parfois tenaces, un vent d'ouest sensible et puis l'arrivée d'une nouvelle vague nuageuse en fin de journée. Elle circulera d'ailleurs sur les régions de la moitié nord jeudi. Partout ailleurs, on profitera du beau temps. Un soleil à peine retardé par quelques grisailles matinales vers les côtes du sud-est ou au sud de la Garonne. Pour les températures, un peu de fraîcheur. Le matin, souvent 2 à 8 degrés, quelques gelées même par endroits, mais encore 8 à 13 en Méditerranée. L'après-midi, peu de changements par rapport à aujourd'hui. Peut-être un peu moins près de la Manche, 12 à 15 degrés, mais un peu plus ailleurs avec 16 à 21 degrés sur les autres régions du nord et 18 à 24 dans le sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir, on pensait ce soir parler football, comme d'habitude, match de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco. Xavier Monferrand, vous êtes notre envoyé spécial sur place à Dortmund et l'on a appris il y a quelques minutes qu'un incident s'était produit au départ du bus de l'équipe allemande. On parle même d'explosion.
Oui, effectivement, trois charges explosives d'après la police locale de Dortmund au niveau du bus, près du bus quand il a quitté l'hôtel pour rejoindre le stade. À 7h, le bus n'a toujours pas d'ailleurs rejoint le stade. Nous sommes ici même devant la sud tribune dans ce stade de Dortmund où les supporters de Monaco ont entonné des chants en criant Dortmund, Dortmund, applaudi par le public. Il n'y a que la voix du speaker qui résonne pour tenter de donner des informations. À l'heure actuelle, il y aurait un blessé dans cette explosion. Il s'agirait du défenseur espagnol de Dortmund, Marc Bartra, qui serait touché au bras. Le match, à l'instant, on l'apprend, est reporté à demain, à 18h45. Donc le match n'aura pas lieu. Mais on peut confirmer effectivement qu'il y a bien eu une attaque sur le bus de l'équipe de Dortmund. Et donc le match n'aura pas lieu ce soir.
Merci à vous Xavier Monferrand, on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette soirée pour en savoir un peu plus concernant l'origine de ces explosions en direction du bus de l'équipe allemande. L'autre match de la soirée en Ligue des Champions oppose la Juve au Barça. Trois des cinq joueurs de rugby du FC Grenoble sont présentés en ce moment à un magistrat après leur garde à vue à Bordeaux pour viol en réunion. Les faits se sont produits le 11 mars dernier. Une jeune femme rencontrée dans une discothèque assure avoir été droguée puis violée dans un hôtel de Mérignac, le parquet estime qu'il existe à leur encontre des indices graves. Le préfet de Seine-et-Marne, mais aussi le ministère de l'Intérieur, décide de la fermeture administrative d'une mosquée de Torcy en raison de ses prêches qui légitiment le djihad armé. C'est le troisième lieu de prière fermé depuis 2016. 1400 migrants à la rue depuis l'incendie la nuit dernière du camp de Grande-Synthe. Encore une fois, ces migrants sont hébergés dans des gymnases. Les communautés ont été séparées pour éviter de nouveaux affrontements. Les ministres de l'Intérieur et du Logement se sont rendus sur place cet après-midi. Ils confirment que le camp ne sera pas reconstruit. La Suède, l'auteur de l'attentat au camion bélier de Stockholm, a été placé en détention et inculpé. C'est un ouzbek aux sympathies djihadistes. Il a reconnu les faits. 20h33 sur France Info. Les informés reviennent avec Jean-Mathieu Pernin et ses invités.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et ce soir, nous recevons Alain Auffray de Libération, l'écrivain André Bercoff, Judith Vintraube du Figaro et François Calfon, conseiller régional d'Île-de-France socialiste et soutien de Benoît Hamon. Alors, si on parle aussi de petits mots doux et succincts échangés à l'Assemblée nationale entre Emmanuel Macron et François Fillon, c'est assez mimi, une chose aussi rapproche les deux hommes en ce moment, ce sont les ordonnances, hein, puisque l'ex-ministre de l'économie l'a évoqué dimanche dans le JDD, avant de revenir dessus aujourd'hui, réformer le marché du travail par ordonnance. Alors, c'est légiférer par ordonnance, a donc un mérite, hein, permettre à l'exécutif d'aller très vite, parce qu'il lui permet de court-circuiter en fait le Parlement et de signer des ordonnances qui ont force de loi sans passer par un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec tout de même un accord hein, du Parlement. Alors, François Calfon, ça a été très critiqué par Benoît Hamon, cette décision d'Emmanuel Macron, mais entre autres, c'était une piste qui avait été évoquée, on en parlait beaucoup au moment de la primaire de droite.
Moi,
est-ce que pour vous, c'est un enjeu démocratique aussi qui joue là ?
Puisqu'on dit, rentrons dans les programmes. Ouais. Vous avez aimé la loi El Khomri, vous l'aurez puissance 10. Hein, et quelque part, nous avons finalement... Ils sont proches, ils s'opposent, ils s'aiment, ils se détestent. Nous avons, j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, Manuel Valls sort de ce corps, ou l'inverse, d'ailleurs, je ne sais plus. Donc, au-delà de la boutade, le projet, puisque ça a été décrit, mais finalement, Fillon est solidaire. Hein, d'autres nommeraient l'union de ces deux partis. Mais le projet, c'est de dissoudre le peuple qui ne veut pas de réforme du marché du travail, qui ne veut pas de destruction de son modèle social. Alors on le fait de manière angélique, en marche, n'est-ce pas ? Mais en marche, tout en sachant qu'il y a un os. Et l'os, ça s'appelle la démocratie sociale, la démocratie politique, parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter sur des sujets qui sont, comme on aurait dit il y a une trentaine d'années, antisociaux, à accepter finalement la volonté populaire. Alors, on l'a vu avec la loi El Khomri, les mêmes causes, si ces deux candidats devaient être élus, produiraient...
Les mêmes
donc
effets.
Là, vous parlez de François Fillon et d'Emmanuel Macron.
Bien
ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit un Emmanuel Macron qui a été un peu traumatisé par le 49-3. Sa loi est passée au 49-3.
C'est Manuel Valls qui lui avait imposé.
Et il semble s'être converti finalement donc au passage rapide avec ses ordonnances. Pourquoi ? Parce que il sent que.
Parce que c'est un garçon très flexible. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est capable tout à fait de dire, y compris dans la même phrase, une chose et son contraire. Moi, ça m'a frappé à chacun des débats. Les deux débats auxquels il a participé, notamment le premier à 5, où il avait quand même chacun des participants avait plus de temps pour s'exprimer. Je l'ai entendu dire quasiment dans le même souffle que le burkini était juste un problème d'ordre public et que le voile était un signe de soumission de la femme. Donc bon, quand on est capable de dire une chose et son contraire comme ça sur des sujets aussi graves que la dignité de l'homme et de la femme, on peut tout à fait changer d'avis sur des questions de méthodologie. Mmh. Il n'arrête pas de changer d'avis. D'ailleurs, François Fillon ne prend pas du tout comme une insulte le fait qu'on lui dise mais finalement Emmanuel Macron, vous aviez les mêmes idées à une époque, puisque lui-même le dit. Oui, on discutait ensemble, on avait les mêmes idées. Alors maintenant, Emmanuel Macron s'offusque que Fillon ait sorti le petit mot de l'Assemblée nationale. Mais il a beau s'offusquer, le mot existe.
Alain Auffray.
Non, le plus extraordinaire, c'est quand même de constater que François Fillon, ces petits billets qu'on s'échange à l'Assemblée nationale, est capable de les conserver pendant un an.
C'est assez stupéfiant. Alain Auffray, pour vous, justement, sur les ordonnances, justement, sur ce système, on le voit, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a vu au moment du 49-3, que les passages en force sont mal vécus aujourd'hui. Ce n'est plus Michel Rocard, qui avait utilisé 28 fois. Pourquoi aujourd'hui, finalement, c'est plus mal vécu qu'auparavant, ces passages en force?
Au nom de l'efficacité, faut rappeler, vous l'avez dit au début, c'était défendu par beaucoup de candidats à la primaire, par Copé surtout, qui en avait fait son emblème, mais aussi par Fillon et Alain Juppé.
Et Sarkozy était très contre.
Et Sarkozy, il était hostile. Il était hostile. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque Macron se justifie aujourd'hui du recours aux ordonnances, il parle d'instaurer ce qu'il appelle un choc de confiance. Et ce mot-là, il se trouve que c'était celui de François Fillon. Pour un homme que vous voulez présenter comme un homme de gauche...
Sept mois après avoir dit « je ne crois pas au choc ».
La différence, c'est que François Fillon, s'il veut faire ça, il est dans sa logique.
Après, on aime, on il l'a pas fait d'ailleurs, le choc de confiance, Fillon.
Je veux dire, François Fillon, il dit, voilà, moi je veux réformer profondément la France, à sa manière, etc., libéral. Bon, simplement, on sait très bien, il faut quand même, là aussi, arrêter de se raconter des histoires tout le temps. N'importe quelle réforme qui se fera, à gauche comme à droite, va susciter une tonne de mécontentement. Évidemment, quand vous réformez, vous avez les gagnants et vous avez les perdants.
Mais vous êtes
toujours.
André, vous êtes pour les ordonnances, non, j'imagine. Vous trouvez ça bien, les ordonnances.
Si à des moments c'est nécessaire, il faut le faire.
Alors, bien sûr. On se souvient, François Calfon, de Manuel Valls, revenant sur le 49-3, on s'en souvient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus acceptable. C'est plus accepté, justement, ces passages.
Non, mais clairement, c'est plus accepté. Et on nous dit, on fait du neuf avec l'ancien. Il y a une forme de. Finalement de transformisme, puisque qu'est-ce qu'on fait ? On refait le quinquennat d'Hollande avec, y compris sur les méthodes, la même chose, c'est-à-dire ce qui nous a conduit à l'échec. Il y a quand même quelque chose d'assez singulier là-dedans. Et puis nos commentateurs, moi je suis un homme politique, mais nos commentateurs se perdent en conjectures pour savoir si cet homme est de droite ou de gauche. Ça dépend des moments. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on a une sorte de candidat 2.0 qui est dans le cloud, dans le nuage, mais qui n'a aucune forme d'ancrage.
Mais lui, vous savez ce qu'il vous dit. Est-ce qu'on est obligé de l'être, de droite ou de gauche ?
Mais vous savez, un pays comme la France, qui vient de là où il vient, il a une forme d'ancrage. Il y a une forme d'identité. Et cette identité, elle est le produit de l'addition.
Je suis content qu'on parle d'identité.
Mais bien sûr, moi, j'ai pas de problème à parler d'identité. Elle vient de l'addition de ce que nous sommes, de notre unité qui est singulière en Europe. Elle vient, je vais pas reprendre toute la litanie des saints, mais de la Révolution française. Et quand vous êtes comme ça, à dire en permanence, je peux m'abstraire de tous les ancrages, je peux faire tout et son contraire, eh bien, vous appartenez à tout le monde, donc vous n'appartenez à personne. Et vous allez voir que les masques vont tomber.
Non, ce qui est formidable, c'est qu'autour de cette table, tout le monde est d'accord pour désinguer Emmanuel Macron.
C'est pas vous. Il a un avocat à Libération.
C'est juste que dire qu'il tient un discours sur l'obsolescence des clivages. Tels que les partis aujourd'hui les incarnent. Et manifestement, ça suffit à convaincre un certain nombre de personnes.
Non, mais l'obsolescence des clivages, c'est une chose. Changer d'avis sur la même chose et dire des choses contradictoires sur le même sujet.
Et ça convainc suffisamment de monde pour qu'il soit au niveau où il est aujourd'hui.
Allez, on y revient. On y revient dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Le match entre Dortmund et l'AS Monaco est reporté à demain 18h45. Les deux équipes devaient se rencontrer pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Vers 19h, une explosion a eu lieu au départ du bus des footballeurs du Borussia. La police allemande parle d'un passager blessé par l'explosion de 3 charges explosives. L'égalité entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans les intentions de vote du premier tour. 24% des voix pour les personnes certaines d'aller voter. Les résultats de la deuxième enquête d'intention de vote de l'Institut Ipsos Sopra Steria pour France Info et France Télévisions. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa progression. Il devient le troisième homme et se classe légèrement devant François Fillon. 18,5% contre 18% dans ses intentions de vote du premier tour. L'ouverture d'une information judiciaire pour vol en réunion pour 3 rugbymen du FCG. Les 3 joueurs grenoblois vont être présentés ce soir à un juge d'instruction. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au viol d'une bordelaise après un match début mars. 5 joueurs grenoblois étaient à nouveau entendus aujourd'hui par les enquêteurs à Bordeaux. La fermeture d'une mosquée prenant une idéologie radicale à Torcy, en Seine-et-Marne. Le ministre de l'Intérieur, Mathias Fekel, précise « La mosquée était devenue un lieu où était prônée une idéologie radicale, ainsi que des incitations au djihad ». Et puis le Royaume-Uni, la France et les États-Unis présentent au Conseil de sécurité un nouveau projet de résolution sur la Syrie. Ils demandent à l'ONU une enquête sur l'attaque chimique imputée au régime du président Bachar el-Assad. C'était mardi dernier.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Alain Auffray de Libération, l'écrivain André Bercoff, Judith Vintraube du Figaro et le conseiller régional d'Île-de-France socialiste et soutien de Benoît Hamon, François Calfon. André Bercoff, vous vouliez justement répondre.
Juste pour répondre, cher Alain Auffray, que l'obsolescence des clivages est souvent une transe qui fait des ravages. Parce que l'obsolescence des clivages, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui où le monde n'a jamais été aussi clivé? Alors, ce n'est plus les vieux clivages, effectivement. Mais enfin, par rapport à l'économie, à l'identité dont on parlait, au problème des menaces d'attentats, d'une idéologie mortifère, au problème de... Ce n'est plus ça. Emmanuel Macron, il ne transcende rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bien. Là où il veut, il dit ça c'est bien. C'est-à-dire, il y a une idéologie, franchement, une idéologie du coussin d'ouate, c'est la ouate qu'il préfère. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et moi je vais tout faire et son contraire, comme disait Judith. Mais il y a un véritable problème. Comment voulez-vous que les gens se fixent par rapport à aux divisions énormes qu'on connaît.
Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il dit que tout va mal dans le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Oui,
dans le monde
qu'est-ce qu'il fait pour arranger les choses?
Allez, justement, on va parler un peu d'économie.
49.3.
On va parler un peu d'économie puisque c'est connu. Vous le savez, le MEDEF ne fait pas de politique et c'est pas parce que le président du MEDEF, Pierre Gattaz, trouve que le programme de François Fillon développe les meilleures solutions qu'il va voter pour lui. Non. La preuve, il trouve Emmanuel Macron pas mal et que Le Pen, Mélenchon et Hamon s'apprêtent à ruiner la France, voire de la politique là-dedans. C'est vrai. Quand même chercher la petite bête. Pierre Gattaz a donc décidé de frapper fort en mettant dans le même sac Hamon, Mélenchon et Le Pen. Pour lui, je cite, c'est ruine, désespoir, désolation, pauvreté généralisée. Et glisse ce matin, à nouveau, un petit tacle pour le candidat socialiste, Pierre Gattaz.
Benoît Hamon ne comprend pas, ne connaît pas, n'a jamais vu une entreprise de près, ne sait pas gérer une entreprise, n'a jamais embauché. Et il est totalement, je dirais, à l'ouest ou à l'est.
Et pourquoi il s'en prend à vous comme ça, selon vous?
Mais parce que, je ne sais pas pourquoi il s'en prend à moi. J'ai juste dit, en effet, que son programme économique est totalement inapplicable et serait aussi, je dirais, catastrophique pour l'économie française.
Voilà, Pierre Gattaz, président du MEDEF. C'est vrai, pourquoi il s'en prend à lui,
Benoît? Non, mais j'adore Pierre Gattaz. C'est-à-dire que le type, à chaque fois qu'il parle pour dénoncer, ça le fait monter. Parce que, je veux dire, un sponsor comme ça, ça me fait penser au moment du débat sur Maastricht ou sur le traité constitutionnel, qu'il pointe les mauvais et les Français vont voter pour. D'ailleurs, dans ceux qu'il pointe, il y en a un certain nombre pour qui les Français veulent voter. En ce qui concerne la pratique syndicale, entre guillemets, de Pierre Gattaz, en réalité, le MEDEF, c'est un parti politique dirigé par des gens qui...
Pour vous, il fait de la politique, là.
Mais il ne fait que ça. Le MEDEF ne fait que ça. Ils se font élire par une base de gens de PME, PMI qui produisent l'emploi en France et qui payent 33% de fiscalité pour défendre, c'est de la prestidigitation, difficulté sur le mot, en tout cas de la tromperie, de la grande tromperie, qui consiste à finalement défendre les entreprises du CAC 40 qui, elles, optimisent fiscalement à 7% dans d'autres pays en se faisant élire par la base. Donc, vous voyez bien, c'est le show permanent pour que la caste du CAC 40 soit maintenu. Alors, il le fait très bien.
Judith Vintraube, pour vous, c'est de la politique?
Non, mais voilà, ma question à François Calfon, c'est vous vous retirez tout de suite, enfin Benoît Hamon se retire tout de suite en faveur de Jean-Luc Mélenchon, il attend le second tour? Parce qu'en entendant votre discours, on se pose la question.
Mais pas du tout, enfin, je vois aucun rapport là-dessus. J'ai dit tout à l'heure et tout au long de l'émission à quel
Gattaz,
point...
Gattaz est le président d'une organisation patronale.
Politique, oui.
Il choisit deux candidats.
Pas de surprise. Enfin,
Il en exclut.
Comme on disait il y a une trentaine d'années, c'est un vote de classe.
Il en exclut trois, bon, ben il en choisit
classe,
deux.
C'est qu'il défend.
Macron et Fillon, qui ont comme point commun d'être pro-européen et de le dire et de l'assumer, car Benoît Hamon a une musique pro-européenne, mais en fait, son programme s'affranchit totalement des règles européennes.
Mais on est d'accord que nous ne sommes pas pour le corset budgétaire Sarkozy-Merkel.
Vous êtes pour l'Europe, mais pas pour l'Europe telle qu'elle existe. Moi, c'est ce que
c'est
j'appelle
clair.
Être anti-européen.
Fillon
ne l'est pas,
et
Macron ne l'est pas. Et les deux se réclament pro-entreprise. C'est absolument normal que le président d'une association d'entrepreneurs...
C'est normal, hein. C'est le mur de l'argent.
André Bercoff. Au-delà du vote de classe, je ne comprends pas. Évidemment que tout le monde parle politique. Et la CGT parle pas le politique, et
non,
la FO
jamais,
ne parle pas le politique, et la CFDT parle. Il faut arrêter, évidemment, qu'il y a une position politique et que chacun défend ses
intérêts.
Est-ce
que ça a de l'influence, ce genre de déclaration, pour vous? Est-ce que ça a de l'influence, André Bercoff, ce genre de déclaration
de Gattaz?
Ouais.
Ah ben, il y a 400 millions de personnes qui vont descendre dans la rue en disant Gattaz avec nous. Enfin, c'est énorme.
Mais en dehors de ça, le fait, voilà, vous l'avez glissé.
C'est extrêmement simple aujourd'hui. Il y a les gens de la mondialisation, du CAC 40, tout ça, qui ont compris comment ça marche et qui sont partout. Et ce n'est pas ni Benoît Hamon ni les autres qui vont les arrêter. Mmh. Ça y est, ils sont déjà partis. Mais il faut le dire. Mmh. Je veux dire, bon. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les riches sont tous des salauds qu'il faut dépouiller? Je ne crois pas. Il faut trouver un juste équilibre. Et le problème, franchement, c'est que tant que la Belgique sera pour nous un paradis fiscal, il faut arrêter de raconter quoi que
la prochaine
genre.
Fois, vous pouvez avoir vos 500 signatures.
Il faut absolument changer les règles de parrainage.
Alain Onfray, il y a Benoît Hamon, donc ça continue un petit peu, je veux dire, son guirlandais entre le président du MEDEF et Benoît Hamon, puisqu'il a été piqué au vif, d'être mis surtout dans le même sac que Marine Le Pen. Et il a déclaré qu'il y a quelque chose de pourri à la tête du MEDEF. Oui. Voilà,
mais cela dit, Hamon, je ne veux pas être méchant, mais il faudrait presque remercier Gattaz, parce qu'il est relativement charitable de nommer Hamon parmi les trois qui
parmi les cinq.
Non, les trois qui feraient courir le pays à la catastrophe, selon lui, c'est la Mélenchon...
Ruine, désespoir, désolation, pauvreté généralisée.
Oui. Parce qu'on a tendance à l'oublier...
Non, mais c'est notre sponsor, Pierre Gattaz. Voilà. Il suffit donc qu'il nomme les ennemis, et il n'y a pas de problème. Non, les Français savent pour qui voter en Suisse.
Alors, pour revenir à notre discussion précédente, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui auraient à perdre de ces catastrophes qui viendraient, ils ne donnent pas d'indication. Il n'y a pas de... Pour ceux qui chercheraient le vote utile, introuvable vote utile dont on parlait tout à l'heure, les déclarations du jour de Gattaz donnent pas, ouvrent pas vraiment la porte.
Le vote utile,
quand même
c'est
le choix
Fillon,
entre...
c'est Fillon pour lui, ça se voit très bien.
Il a la gentillesse de laisser le choix entre Hamon et Fillon. Non, il a son choix.
Il n'est pas ingrat.
Parce qu'il y a plein de patrons qui sont pour Macron.
Il n'est pas ingrat, Pierre Gattaz, puisqu'il laisse la possibilité de Macron. Et quand on vous a fait un chèque en blanc de 40 milliards avec le CICE et le pacte de responsabilité, la moindre des choses, dit mon voisin, c'est quand même de laisser la possibilité d'une île, si j'ose dire, en laissant ouvert le vote Macron, qui était finalement, comme vous l'avez dit, au cœur du système. Et là, élyséen, parce que le système, on le nomme, élyséen, qui a conduit à ce cadeau magistral de transfert de la fiscalité des Français, des ménages qui ont lourdement payé, vers les entreprises. Et encore, je le dis toujours, vers les grosses entreprises qui n'en ont pas besoin.
Alors, juste une question encore économique, parce que c'est juste une question là qui est un petit peu, justement, qui concerne la société civile. C'est ces entrepreneurs, en ce moment, voilà, il y a une petite question, si on voit en ce moment des entrepreneurs voilà, qui prennent position pour des candidats politiques. On l'a vu, le soutien du propriétaire des boulangeries Paul et la Durée qui appelle à voter Fillon, ou le patron de Paprec qui lui a envoyé une lettre.
Non, la Durée, il n'est pas d'accord.
Non, juste, voilà, de son fils. Et qui a envoyé une lettre, le patron de Paprec, à ses employés pour mettre en garde contre un vote pour Marine Le Pen. Pour vous, Judith Vintraube, est-ce que c'est normal que des entrepreneurs comme ça s'engagent?
Au nom de leurs convictions politiques? Certainement pas. Au nom de leurs convictions, ils prennent leurs risques. Moi, je trouve ça assez maladroit. Ça ne peut lui attirer que des ennuis commerciaux, mais je ne suis pas une commerciale. Ce que je vois, en tout cas, c'est que dans la famille...
En effet, la Durée...
La Durée, Paul, je crois que son épouse est responsable d'une partie de la campagne d'Emmanuel Macron. En plus, joli coup. Ouais, il a réussi à se fâcher en même temps avec ses salariés et avec sa famille.
Alain Onfray, pour vous, que des entrepreneurs comme ça s'engagent, c'est important, intéressant, ça veut dire que c'est...
La maladresse, c'est de le faire au nom des salariés. Ouais, que des chefs d'entreprise disent que ils ont le droit. Marine Le Pen fait courir le monde de l'entreprise en France à la catastrophe, ça me paraît être de bonne guerre, assez normal.
Allez, dans un instant, on va parler un peu d'international. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Le match entre Dortmund et l'AS Monaco est reporté à demain 18h45, le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Vers 19h, une explosion a eu lieu au départ du bus des footballeurs du Borussia Dortmund. La police allemande parle d'un passager blessé par l'explosion de 3 charges d'explosifs. Il s'agit du défenseur espagnol du Borussia, Marc Bartra. L'égalité entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans les intentions de vote du premier tour. 24% des voix des personnes certaines d'aller voter. Les résultats de la deuxième enquête d'intention de vote de l'Institut Ipsos Sopra Steria pour France Info et France Télévisions. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa progression. Il devient le troisième homme et se classe très légèrement devant François Fillon à 18,5% contre 18% dans ses intentions de vote du premier tour. Le débat de l'entre-deux tours lui sera diffusé le mercredi 3 mai. TF1 et France 2 l'annoncent ce soir. BFM TV fait savoir au CSA qu'elle souhaite toujours se joindre à elle. Il n'y aura pas de reconstruction du camp de migrants de Grande-Synthe. La déclaration dans le Nord du ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl. Il faudra, dit-il, que les élus et associations trouvent les bonnes solutions pour les 1400 réfugiés. Les suites de l'incendie la nuit dernière de ce camp après des affrontements. Et puis un rendez-vous cet après-midi entre les syndicats de surveillants et l'administration pénitentiaire. Les suites du blocage la nuit dernière devant la prison de Fleury-Mérogis. Plus de 200 gardiens étaient mobilisés après des agressions récentes. Et devant la surpopulation carcérale, ils réclament toujours plus de moyens pour assurer leur mission.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, juste avant de continuer notre débat, nous allons joindre Xavier Monferrand. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Alors vous suiviez pour nous justement le match, enfin le match qui n'avait pas encore commencé entre Dortmund et Monaco lorsque donc une explosion a retenti blaissant une personne, brisant des vitres. Quelle est la situation sur place actuellement, là où vous vous trouvez ?
Eh bien écoutez, moi je suis dans le stade, dans le Signal Iduna Park, là où devait se dérouler la rencontre. Les tribunes sont en train de se vider, on est en train de sortir les spectateurs du stade. La zone est sécurisée, c'est ce que nous ont dit les forces de police via le speaker du stade. Ce qui s'est passé en fait, c'est en dehors du stade et au niveau de l'hôtel des joueurs. Quand ils sont partis sur le chemin du stade, au départ du bus de l'hôtel, eh bien on a entendu trois explosions autour du bus. Une explosion qui a brisé les vitres du bus du Borussia en blessant un joueur, le défenseur espagnol Marc Bartra, qui a été hospitalisé, qui est actuellement à l'hôpital et qui a été blessé visiblement au bras. Il aurait eu des coupures au bras, mais donc ce serait pas grave pour le joueur espagnol. En tout cas, il n'y a pas eu de panique dans le stade ici à Dortmund. On a vu les supporters de Monaco entonner un chant en criant Dortmund, Dortmund, applaudi évidemment par tout le stade qui attendait le match. Mais c'est vrai que c'est une scène qu'on n'a pas l'habitude de voir hein, au moment où les joueurs devaient rentrer sur la pelouse. Et bien rien, le stade qui se vidait dans le calme, pas de précipitation ici à Dortmund. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, donc un joueur blessé dans cette attaque. On n'en sait pas plus de ce qui a produit cette explosion.
Juste une chose, David, on va vous retrouver bien sûr la suite de la soirée sur France Info et notamment dans le Classico dans quelques minutes. Le match, lui, est reporté. Hein.
Le match, effectivement, est reporté à demain. On l'a appris il y a quelques minutes. Demain à 18h45, donc ici même, au Signal Iduna Park de Dortmund.
Merci beaucoup, Xavier Monferrand. On vous retrouve donc tout au long de la soirée et notamment dans le Classico. Nous n'aurons pas le temps de débattre, mais on voit une situation internationale. Alors, bien sûr, on ne sait rien du tout de ce qui se passe ce soir à Dortmund. On a juste vu que depuis, c'est vrai, une, deux semaines, une situation internationale très compliquée. Juste pour vous, François Calfon, qui suivait la campagne, bien sûr, au jour le jour. Est-ce que vous avez l'impression que la situation internationale, on l'a vu avec différents attentats, avec les frappes en Syrie, là ce qui se passe, la réception par la Russie de l'ambassadeur américain, du ministre pardon, américain, est-ce que ça influence cette campagne ?
Certainement qu'on a dit le vote indécis et le vote indicible. Certainement que dans le vote indicible, la situation internationale va peser. Mais je constate que finalement les questions de sécurité, les questions de régalien, dont on pensait dans les primaires qu'elle serait vraiment l'élément discriminant, c'était d'ailleurs l'un des choix de Nicolas Sarkozy de l'avoir mis en avant, pèse finalement relativement peu, comme s'il y avait une forme d'habitude qui se faisait de vivre dans un monde instable. Or, si nous regardons, parce que nous sommes ici des gens qui sommes très informés, le monde tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il était, ne serait-ce qu'il y a un an, il s'est radicalement modifié. Et il serait bon que, finalement, la campagne des présidentielles de la cinquième puissance du monde se passe d'un membre permanent du Conseil de sécurité davantage sur ces sujets-là. Mais je constate que dans les démocraties modernes, c'est rarement le cas quand même.
Julie Vintraube, vous-même, quand vous suivez justement des candidats, aujourd'hui, ce qui s'est passé par exemple la semaine dernière, la différente tension internationale qu'on vit actuellement, ça a pu influencer, vous pensez, le discours
ou les attitudes même ? En tout cas, ça a été... Vous savez que moi, je suis en particulier François Fillon, puisqu'on est dispatché entre les candidats dans toutes les rédactions comme ça. En tout cas, Fillon l'a intégré dans son discours en excipant de son expérience et de sa connaissance.
Quand il était premier ministre,
voilà, quand il était premier ministre, il a un carnet d'adresses international, il a des interlocuteurs qui le connaissent et qu'il connaît, et ça, évidemment, ça pèse dans la balance au moment de choisir un chef d'État.
André, moi, je crois, je diffère de ce que dit François Calfon en disant que ça pèse peu apparemment. Je crois que ça pèse beaucoup réellement chez les gens. Je ne parle pas des hommes politiques.
J'ai dit ça. Il y a un vote indicible sur lequel ça pèse.
Ah oui, alors, oui, c'est ça.
Et mais ça ne pèse pas dans la campagne.
Ça ne pèse pas dans la campagne, mais ça pèse énormément chez les gens, dans la conscience des gens. Et je veux dire quelque chose. Moi, je suis frappé. Je vais citer les réseaux sociaux, parce qu'on n'aime pas beaucoup les citer.
Bien sûr, mais si.
C'est très... Par exemple, l'histoire de ce qui s'est passé en Égypte, avec les attentats contre les deux églises coptes. Ça a été énormément, j'étais même étonné à quel point ça a été reproduit, ça a été cité, etc.
Relayé.
C'est-à-dire que le climat d'insécurité, évidemment, les gens vont pas dire, ça y est, je vais sauter là en sortant d'ici, et heureusement. En revanche, ce sentiment-là, il est extrêmement fort et je crois qu'il va peser beaucoup
dans les urnes, le 23 avril.
Il y aura par une question de dimanche.
Ça doit se terminer à l'eau frais, je suis désolé. Voilà, j'aurais voulu vous donner la parole une dernière fois, mais voilà, ça doit se terminer. Parfait. Merci beaucoup à François Calfon d'être passé ce soir. Merci André Bercoff. Judith Vintraube, la Une du Figaro demain.
La Une du Figaro, Mélenchon, un projet dévastateur pour la France.
Voilà, et la Une de Libération demain, là, au frais.
Un homme, une femme, trois hommes, six possibilités. C'est un montage avec ce qui décrit cette situation
et plus d'incertitude
énorme dans laquelle on est à 12 jours du premier tour.
La Une, en effet, demain de Libération. Et il est temps pour nous de retrouver Jean-Michel. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le Classico, j'imagine vous allez revenir longuement sur ce qui vient de se passer à Dortmund.
Absolument, Classico chamboulé ce soir par l'annonce du report de ce match de Ligue des Champions entre Dortmund et Monaco qui devait débuter il y a 10 minutes et après l'explosion qui a eu lieu tout près du bus des joueurs de Dortmund, un joueur de Dortmund blessé, bien les autorités allemandes ont décidé de reporter ce match. On sera en direct de Dortmund dans 3 minutes, donc c'est l'actualité sportive du soir évidemment.
Le Classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.